Polos, commettre l'injustice, le plus grand des maux, n'en est-ce pas un plus grand de la subir ?
Socrate, pas du tout.
Polos, ainsi toi, tu aimerais mieux subir l'injustice que la commettre ?
Socrate, je ne voudrais ni de l'un, ni de l'autre. Mais s'il me fallait absolument commettre l'injustice, ou la subir, je préférerais la subir plutôt que de la commettre.
Polos, alors toi, tu n'accepterais pas d'être tyran ?
Socrate,
non, si tu as de la tyrannie la même idée que moi.
Polos, l'idée que j'en ai, moi, je le répète, c'est qu'elle permet de faire tout ce qu'on veut dans l'État, tuer, exiler, et tout faire selon son bon plaisir.
Socrate, bienheureux Polos, laisse-moi parler. Tu me critiqueras à ton tour. Supposons qu'à l'heure où la place publique est pleine de monde, tenant un poignard sous mon aisselle, je vienne te dire.
Polos, je viens d'acquérir un pouvoir merveilleux, égal à celui d'un tyran. Si je décide qu'un de ces hommes que tu vois doit mourir sur le champ, cet homme sera mort, aussitôt mon arrêt donné. Si je décide qu'il faut casser la tête à l'un d'eux, il l'aura cassé immédiatement. Qu'il faut lui déchirer son habit sera déchiré, tant ma puissance est grande dans la cité. Si voyant que tu ne me crois pas, je te montrais mon poignard, tu me dirais peut-être alors, à ce compte, Socrate, tout le monde pourrait être puissant, puisqu'on pourrait de la même façon incendier la maison qu'on voudrait, les arsenaux et les trières des Athéniens, et tous les bateaux marchands de l'État et des particuliers. Mais alors, ce n'est pas avoir un grand pouvoir que de faire ce qui vous plaît.
Que t'en semble ?
Polos, dans ces conditions-là, certainement non.
Socrate, peux-tu me dire ce que tu reproches à un semblable pouvoir ?
Polos,
oui.
Socrate, qu'est-ce donc ? Parle.
Polos, c'est que nécessairement, si l'on agit ainsi, on sera puni.
Socrate, être puni, n'est-ce pas un mal ?
Polos, il est certain que si.
Socrate, donc, étonnant jeune homme, tu en reviens à juger qu'on a un grand pouvoir lorsque, faisant son caprice, on y trouve son avantage et que cela est un bien. Voilà, semble-t-il, ce qu'est un grand pouvoir. Hors de là, il n'y a que mal et faiblesse. Mais examinons encore ceci. Ne reconnaissons-nous pas qu'il vaut mieux parfois faire ce que nous venons de dire, tuer, bannir, dépouiller les gens, et parfois n'en rien faire ?
Polos.
Certainement.
Socrate.
Sur ce point-là, semble-t-il, nous sommes d'accord, toi et moi.
Polos.
Oui. Socrate. Dans quel cas, selon toi, vaut-il mieux commettre ces actes ? Dis-moi comment tu en fais la démarcation.
Polos.
Non, Socrate. Réponds toi-même à ta question.
Socrate.
Eh bien, Polos, puisque tu préfères m'écouter, je dis que cela vaut mieux quand on fait un de ces actes avec justice, et que c'est mauvais si l'acte est injuste.
Polos.
Belle difficulté, vraiment, Socrate, de te réfuter. Un enfant même te prouverait que tu es dans l'erreur.
Socrate.
J'aurais beaucoup de reconnaissance à cet enfant, et j'en aurais autant pour toi si tu me réfutes et me débarrasses de ma niaiserie. Ne te lasse donc pas d'obliger un homme qui t'aime, et réfute-moi.
Polos.
Pour te réfuter, Socrate, on n'a nul besoin de prendre des exemples dans le passé. Ceux d'hier et d'aujourd'hui suffisent pour te convaincre d'erreur et te démontrer que les gens injustes sont souvent heureux.
Socrate.
De quels exemples parles-tu ?
Polos.
Tu vois bien sans doute Archélaos, fils de Perdiccas, régnait aujourd'hui en Macédoine.
Socrate.
Si je ne le vois pas, j'en ai du moins entendu parler.
Polos.
Eh bien, te paraît-il heureux ? Ou malheureux ?
Socrate, je n'en sais rien, Polos.
Je ne me suis pas encore rencontré avec lui.
Polos.
Quoi donc ? Tu le saurais si tu t'étais rencontré avec lui. Et d'ici même, tu ne peux pas savoir autrement qu'il est heureux.
Socrate.
Non, par Zeus, non.
Polos.
Alors on peut être sûr, Socrate, que du grand roi lui-même, tu vas dire que tu ignores s'il est heureux.
Socrate.
Et je dirai la vérité, car je ne sais pas où il en est sous le rapport de l'instruction et de la justice.
Polos.
Et quoi ? Est-ce uniquement en cela que consiste le bonheur ?
Socrate.
Oui, selon moi, Polos, car je prétends que quiconque est honnête, homme ou femme, est heureux, et quiconque est injuste et méchant, malheureux.
Polos.
Alors cet Archélaos est malheureux, d'après la thèse que tu soutiens.
Socrate. Oui, mon ami, s'il est injuste.
Polos. Et comment ne serait-il pas injuste? Il n'avait aucun droit au trône qu'il occupe aujourd'hui, étant né d'une femme qui était esclave d'Alcétès, frère de Perdiccas. Selon la justice, il était l'esclave d'Alcétès, et s'il avait voulu observer la justice, il servirait Alcétès et serait heureux, d'après ce que tu prétends. Au lieu qu'aujourd'hui, le voilà prodigieusement malheureux, puisqu'il a commis les plus grands forfaits. Tout d'abord, il fit venir cet Alcétès, son maître et son oncle, pour lui rendre, disait-il, le trône dont Perdiccas l'avait dépouillé. Il le reçut chez lui et l'enivra profondément, lui et son fils Alexandre, qui était son propre cousin et à peu près du même âge que lui. Puis, les mettant dans un chariot, il les emmena, les égorgea et les fit disparaître tous les deux. Ce crime accompli, il ne s'aperçut pas qu'il était devenu le plus malheureux des hommes et il n'éprouva aucun remords. Peu de temps après, il s'en prit à son frère, le fils légitime de Perdiccas, un enfant d'environ 7 ans, à qui le pouvoir appartenait de droit. Au lieu de consentir à se rendre heureux en l'élevant comme il le devait et en lui rendant le pouvoir, il le jeta dans un puits, le noya, puis dit à sa mère Cléopâtre qu'en poursuivant une oie, il était tombé dans le puits et qu'il était mort. Aussi, maintenant qu'il est l'homme le plus criminel de Macédoine, il est le plus malheureux de tous les Macédoniens, loin qu'il en soit le plus heureux. Et peut-être y a-t-il plus d'un Athénien, à commencer par toi, qui préférerait la condition de n'importe quel autre Macédonien à celle d'Archélaos.
Socrate. Dès le commencement de cet entretien, Polos, je t'ai fait compliment en te voyant bien dressé à la rhétorique, mais je t'ai dit que tu avais négligé le dialogue. Et maintenant, est-ce là ce fameux raisonnement par lequel un enfant même me réfuterait? Et suis-je à présent convaincu par toi et par ton raisonnement que j'ai tort de soutenir que l'homme injuste n'est pas heureux? Comment serais-je convaincu, mon bon, puisque je ne suis d'accord avec toi sur aucune de tes assertions?
Polos, c'est que tu émets de la mauvaise volonté, car au fond, tu penses comme moi.
Socrate, bienheureux Polos, tu essayes de me réfuter avec des preuves d'avocat, comme on prétend le faire dans les tribunaux. Là, en effet, les avocats croient réfuter leur adversaire quand ils produisent à l'appui de leur thèse des témoins nombreux et considérables, et que leur adversaire n'en produit qu'un seul, ou pas du tout. Mais cette manière de réfuter est sans valeur pour découvrir la vérité, car on peut avoir contre soi les fausses dépositions de témoins nombreux et réputés pour sérieux. Et dans le cas présent, sur ce que tu dis, presque tous les Athéniens et les étrangers seront du même avis que toi, si tu veux produire des témoins pour attester que je ne dis pas la vérité. Tu feras déposer en ta faveur, si tu le désires, Nicias, fils de Nicératos, et avec lui ses frères, dont on voit les trépieds placés à la file dans le sanctuaire de Dionysos. Tu feras déposer, si tu veux, Aristocrates, fils de Skélios, de qui vient cette belle offrande qu'on voit à Pytho. Et si tu veux encore, la maison entière de Périclès, ou telle autre famille d'Athènes qu'il te plaira de choisir. Mais moi, quoique seul, je ne me rends pas, car tu ne me convaincs pas. Tu ne fais que produire contre moi une foule de faux témoins, pour me déposséder de mon bien et de la vérité. Moi, au contraire, si je ne te produis pas toi-même et toi seul comme témoin, et si je ne te fais pas tomber d'accord de ce que j'avance, j'estime que je n'ai rien fait qui vaille pour résoudre la question qui nous occupe, et que tu n'as rien fait non plus. Si je ne témoigne pas moi-même et moi seul en ta faveur, et si tu ne renvoies pas tous ces autres témoins. Il y a donc une manière de réfuter, telle que tu la conçois, toi et bien d'autres. Mais il y en a une autre, telle que je la conçois de mon côté. Comparons-les donc, et voyons si elles diffèrent entre elles. Car les objets dont nous contestons ne sont pas de petites conséquences, et l'on peut dire qu'il n'y en a point, qu'ils soient plus beaux de connaître et plus honteux d'ignorer. Puisqu'en somme, il s'agit de savoir ou d'ignorer qui est heureux et qui ne l'est pas. Ainsi tout d'abord, sur le point qui nous occupe, tu es d'avis qu'on peut être heureux quand on fait le mal et qu'on est injuste, puisque tu crois qu'Archélaos est heureux, en dépit de ses crimes. Ne devons-nous pas croire que telle est ta manière de voir?
Polos.
Si, absolument.
Socrate.
Et moi je soutiens que c'est impossible. C'est le premier point sur lequel nous sommes en désaccord. Passons à l'autre. Un homme injuste sera-t-il heureux s'il vient à être puni et châtié?
Paulos, pas du tout. En ce cas, il sera très malheureux.
Socrate. Alors, s'il n'est pas puni, il sera heureux à ton compte.
Paulos. Assurément.
Socrate. Et moi je pense, Paulos, que l'homme qui commet une injustice et qui porte l'injustice dans son cœur est malheureux en tous les cas, et qu'il est plus malheureux encore s'il n'est point puni et châtié de son injustice, mais qu'il l'est moins s'il la paye, et s'il est puni par les dieux et par les hommes.
Paulos.
Tu nous débites là, Socrate, d'étranges paradoxes.
Socrate.
Je vais essayer, camarade, de te faire partager mon sentiment, car je te considère comme un ami. En fait, les points sur lesquels nous sommes en désaccord sont les suivants. Vois toi-même. J'ai dit précédemment que commettre l'injustice était un plus grand mal que la subir.
Paulos. C'est vrai.
Socrate. Et toi, que c'est un plus grand mal de la subir.
Paulos. Oui.
Socrate. J'ai dit aussi que ceux qui agissent injustement étaient malheureux. Et tu m'as réfuté.
Paulos.
Oui, par Zeus.
Socrate.
Tu le crois du moins, toi.
Paulos.
Et j'ai raison de le croire.
Socrate.
C'est fort possible. Mais toi, de ton côté, tu soutenais que ceux qui agissent injustement sont heureux, s'ils échappent au châtiment.
Paulos.
Parfaitement.
Socrate.
Et moi, je dis que ce sont les plus malheureux, et que ceux qui payent la peine de leur faute le sont moins. Veux-tu aussi réfuter ce point?
Paulos.
Ah, Socrate, il est encore plus difficile à réfuter que le précédent.
Socrate. Ne dis pas difficile, Paulos, mais impossible, car on ne réfute jamais la vérité.
Paulos.
Que dis-tu là?
Voici un scélérat qu'on surprend dans un attentat pour s'emparer de la tyrannie et qui, arrêté, est mis à la torture. On le châtie, on lui brûle les yeux, on le mutile atrocement de cent autres façons, et il voit infliger les mêmes traitements à ses enfants et à sa femme. À la fin, on le met en croix, on l'enduit de poids, et on le brûle tout vif. Et cet homme-là serait plus heureux que s'il s'était échappé, avait conquis la tyrannie, et, maître de sa ville, passait toute sa vie à satisfaire ses caprices, objet d'envie et d'admiration pour ses concitoyens et pour les étrangers. C'est cela que tu donnes pour impossible à réfuter?
Socrate.
C'est encore un épouvantail que tu me présentes, mon brave Paulos. Ce n'est pas une réfutation, pas plus que tout à l'heure, quand tu produisais tes témoins. Quoi qu'il en soit, rafraîchis-moi la mémoire sur un détail. Tu as bien dit, supposons qu'il veuille injustement s'emparer de la tyrannie.
Paulos.
Oui. Socrate. Cela étant, aucun des deux ne sera jamais plus heureux que l'autre, ni celui qui a réussi injustement à s'emparer de la tyrannie, ni celui qui est livré au châtiment. Car de deux malheureux, ni l'un ni l'autre ne saurait être le plus heureux. Mais le plus malheureux des deux est celui qui a échappé et qui est devenu tyran. Qu'est-ce que cela signifie, Paulos? Tu ricanes? Est-ce là encore une nouvelle manière de réfuter, que de se moquer de ce qu'on dit, sans alléguer aucune raison?
Paulos.
Ne crois-tu pas être entièrement réfuté, Socrate, quand tu avances des choses que personne au monde ne saurait soutenir? Interroge plutôt un quelconque des assistants.
Socrate.
Je ne suis pas du nombre des politiques, Paulos. Et l'an passé, ayant été désigné par le sort pour être sénateur, quand ma tribu exerça la prytanie et qu'il me fallut mettre aux voix la question, je prêtais à rire et ne sus pas m'y prendre. Ne me parle donc pas non plus, aujourd'hui, de faire voter les assistants. Et si tu n'as pas de meilleures preuves que leurs témoignages, laisse-moi prendre ta place, comme je te l'ai proposé tout à l'heure, et fais l'expérience de l'argumentation telle qu'elle doit être à mon avis. Pour moi, je ne sais produire en faveur de mes assertions qu'un seul témoin, celui-là même avec qui je discute, et je ne tiens pas compte du grand nombre. Je sais faire voter un témoin unique, mais je ne discute point avec le grand nombre. Vois donc si tu consens à me laisser conduire à mon tour l'argumentation et à répondre à mes questions. Je suis convaincu, moi, que toi et moi, et tous les hommes, nous pensons tous que c'est un plus grand mal de commettre l'injustice que de la subir, et de n'être pas puni que de l'être.
Paulos.
Et moi je soutiens que ni moi, ni aucun autre homme n'est de cet avis. Toi-même, aimerais-tu mieux subir l'injustice que de la commettre ?
Socrate. Oui, et toi aussi, et tout le monde.
Pholos. Tant s'en faut. Ni moi, ni toi, ni personne au monde.
Socrate. Ne veux-tu pas me répondre ?
Pholos. Certainement, si, car je suis curieux de savoir ce que tu pourras dire.
Socrate. Si tu veux le savoir, réponds-moi alors, comme si je commençais à t'interroger.
Quel est, selon toi, Pholos, le plus grand mal ? De faire une injustice ou de la subir ?
Pholos. Selon moi, de la subir.
Socrate. Et quel est le plus laid ? Est-ce de la commettre ou de la subir ?
Réponds.
Pholos.
De la commettre.
Socrate. C'est donc aussi un plus grand mal, puisque c'est plus laid.
Pholos. Pas du tout.
Socrate. J'entends. Tu ne crois pas, à ce que je vois, que le beau et le bon, le mauvais et le laid, soient la même chose.
Pholos.
Non, certes.
Socrate. Mais que vas-tu dire à ceci ?
Toutes les belles choses, corps, couleurs, figures, sons, occupations, est-ce sans motif que tu les appelles belles ? Par exemple, pour commencer par les beaux corps, ne dis-tu pas qu'ils sont beaux ou bien en raison de l'usage en vue duquel ils servent, ou en raison d'un plaisir particulier que leur aspect cause à ceux qui les regardent ? En dehors de ces raisons, en as-tu quelque autre qui te fasse dire qu'un corps est beau ?
Pholos. Non, je n'en ai pas.
Socrate. N'en est-il pas de même de toutes les autres belles choses, des figures et des couleurs ? N'est-ce pas à cause d'un certain plaisir, ou de leur utilité, ou des deux à la fois, que tu les appelles belles ?
Pholos.
Si. Socrate. N'en est-il pas de même aussi pour les sons, et tout ce qui regarde la musique ?
Pholos.
Si. Socrate. De même encore, parmi les lois et les occupations, celles qui sont belles ne le sont certainement pas pour d'autres raisons que leur utilité ou leur agrément, ou les deux à la fois.
Pholos.
Apparemment. Socrate. N'en est-il pas aussi de même de la beauté des sciences ?
Pholos.
Sans contredit, et tu viens de donner du beau une excellente définition, en le définissant par l'agréable et le bon.
Socrate.
Le laid, alors, se définira bien par les contraires, le douloureux et le mauvais.
Pholos.
Nécessairement. Socrate. Lors donc que, de deux belles choses, l'une est plus belle que l'autre, c'est parce qu'elle la dépasse, par l'une de ces deux qualités, ou par toutes les deux, qu'elle est la plus belle. C'est-à-dire, ou par le plaisir, ou par l'utilité, ou par les deux à la fois.
Pholos.
Certainement.
Socrate.
Et lorsque de deux choses laides, l'une est plus laide que l'autre, c'est parce qu'elle cause plus de douleur ou plus de mal qu'elle est plus laide. N'est-ce pas une conséquence forcée ?
Pholos.
Si.
Socrate.
Voyons maintenant. Que disions-nous tout à l'heure touchant l'injustice faite ou reçue ? Ne disais-tu pas qu'il est plus mauvais de subir l'injustice et plus laid de la commettre ?
Pholos.
Je l'ai dit en effet.
Socrate.
Si donc il est plus laid de commettre que de souffrir l'injustice, c'est plus douloureux et c'est plus laid. D'autant que l'un l'emporte sur l'autre par la souffrance ou le mal causé, ou par les deux. N'est-ce pas forcé aussi ?
Pholos.
Sans contredit.
Socrate.
Examinons en premier lieu si l'injustice commise cause plus de douleur que l'injustice reçue, et si ceux qui la commettent souffrent plus que leurs victimes.
Pholos.
Pour cela non, Socrate.
Socrate.
Ce n'est donc pas par la douleur que l'injustice commise l'emporte.
Pholos.
Non, certes.
Socrate.
Si ce n'est pas par la douleur, ce n'est pas non plus par les deux qu'elle l'emporte.
Pholos.
Évidemment non. Socrate. Reste donc que c'est par l'autre.
Pholos.
Oui.
Socrate. Par le mal.
Pholos. C'est vraisemblable.
Socrate.
Puisque faire une injustice l'emporte par le mal, la faire est donc plus mauvais que la recevoir.
Pholos.
Évidemment.
Socrate.
Or n'est-il pas admis par la plupart des hommes, et ne m'as-tu pas avoué toi-même précédemment, qu'il est plus laid de commettre l'injustice que de la subir ?
Pholos.
Si.
Socrate.
Et nous venons de voir que c'est plus mauvais.
Pholos.
Il paraît que oui.
Socrate. Maintenant préférerais-tu ce qui est plus laid et plus mauvais à ce qui l'est moins ?
N'hésite pas à répondre, Pholos, il ne t'en arrivera aucun mal. Livre-toi bravement à la discussion, comme à un médecin, et réponds par oui ou par non à ma question.
Polos. Non, Socrate, je ne le préférerais pas.
Socrate. Est-il un homme qui le préférera ?
Polos. Il me semble que non,
du moins d'après ce raisonnement.
Socrate. J'avais donc raison de dire que ni moi, ni toi, ni personne au monde ne préférerait commettre l'injustice à la subir, puisque c'est une chose plus mauvaise.
Polos.
Il y a apparence.
Socrate. Tu vois donc, Polos, que mon argumentation et la tienne, rapprochées l'une de l'autre, ne se ressemblent en rien. Tu as, toi, l'assentiment de tout le monde, excepté moi. Et moi, je me contente de ton seul acquiescement et de ton seul témoignage. Je n'appelle à voter que toi seul, et je n'ai cure des autres. Que ce point demeure donc arrêté entre nous. Passons maintenant à l'examen du second point, sur lequel nous étions en contestation. Être puni, quand on est coupable, est-ce le plus grand des maux, comme tu le pensais, ou est-ce, comme je le pensais, un plus grand mal d'échapper au châtiment ? Procédons de cette manière. Payer sa faute, et être châtié justement, quand on est coupable. N'est-ce pas la même chose à ton avis ?
Polos.
Si.
Socrate. Et maintenant peux-tu soutenir que ce qui est juste n'est pas beau, en tant que juste ?
Réfléchis avant de répondre.
Polos.
Oui, Socrate, je crois qu'il en est ainsi.
Socrate. Examine encore ceci. Si un agent fait quelque chose, n'est-il pas nécessaire qu'il y ait aussi un patient affecté par cet agent ?
Polos. Il me le semble.
Socrate. Et ce qui supporte ce que fait l'agent ne doit-il pas être tel que le fait l'agent ?
Voici un exemple. Si quelqu'un frappe, ne faut-il pas que quelque chose soit frappé ?
Polos. Nécessairement.
Socrate. Est-ce qu'il frappe fort ou vite, que la chose frappée soit frappée de même ?
Polos.
Oui.
Socrate. Par conséquent, l'effet sur l'objet frappé est tel que le fait ce qui le frappe.
Polos. Certainement.
Socrate. De même, si quelqu'un brûle, il faut qu'il y ait quelque chose de brûlé.
Polos.
Forcément.
Socrate. Et s'il brûle fort et cause une douleur violente, que l'objet brûlé le soit comme le brûleur le brûle.
Polos. Assurément.
Socrate. Et si quelqu'un coupe, n'en est-il pas de même ? Y a-t-il quelque chose de coupé ?
Polos.
Oui.
Socrate. Et si la coupure est grande ou profonde ou douloureuse, l'objet coupé subit une coupure telle que l'a fait le coupeur.
Polos. C'est évident.
Socrate. En un mot, vois si tu m'accordes dans tous les cas ce que je disais tout à l'heure, que telle est l'action de l'agent, tel est l'effet supporté par le patient.
Polos. Oui, je te l'accorde.
Socrate. Cela admis, dis-moi si être puni, c'est pâtir ou agir.
Polos. Forcément, c'est pâtir, Socrate.
Socrate. De la part de quelqu'un qui agit.
Polos. Sans doute, de la part de celui qui châtie.
Socrate. Mais celui qui châtie a bon droit, châtie justement.
Polos. Oui.
Socrate. Fait-il en cela une action juste ou non ?
Polos. Il fait une action juste.
Socrate. Et celui qui est châtié en punition d'une faute, ne subit-il pas un traitement juste ?
Polos. Il y a apparence.
Socrate. Or nous sommes tombés d'accord que ce qui est juste est beau.
Polos. Sans contredit.
Socrate. Alors de ces deux hommes, l'un fait une action belle, et l'autre, l'homme châtié, la supporte.
Polos.
Oui.
Socrate. Mais si elle est belle,
elle est bonne, puisqu'elle est agréable ou utile.
Polos. C'est forcé.
Socrate. Ainsi ce que souffre celui qui est puni est bon.
Polos.
Il semble.
Socrate. Il en tire donc utilité.
Polos.
Oui.
Socrate. Est-ce l'utilité que je conçois ? Son âme ne s'améliore-t-elle pas s'il est puni justement ?
Polos. C'est vraisemblable.
Socrate. Ainsi celui qui est puni est débarrassé de la méchanceté de son âme.
Polos.
Oui.
Socrate. N'est-il pas ainsi délivré du plus grand des maux ?
Examine la question de ce biais. Pour l'homme qui veut amasser une fortune, vois-tu quelque autre mal que la pauvreté ?
Polos.
Non, je ne vois que celui-là.
Socrate. Et dans la constitution du corps, le mal, à tes yeux, n'a-t-il pas la faiblesse, la maladie, la laideur et les autres disgrâces du même genre ?
Polos.
Si.
Socrate, et l'âme, ne crois-tu pas qu'elle a aussi ses vices?
Polos, naturellement.
Socrate, ces vices, ne les appelles-tu pas injustice, ignorance, lâcheté, et d'autres noms pareils?
Polos, certainement.
Socrate, donc pour ces trois choses, fortune, corps et âme, tu as reconnu trois vices. La pauvreté, la maladie, l'injustice.
Polos, oui.
Socrate, maintenant de ces trois vices, quel est le plus laid? N'est-ce pas l'injustice, et pour le dire en un mot, le vice de l'âme?
Polos, sans comparaison.
Socrate, si c'est le plus laid, c'est aussi le plus mauvais.
Polos, comment entends-tu cela, Socrate?
Socrate, voici. La chose la plus laide n'est-elle que parce qu'elle cause le plus de douleur, de dommage, ou de ces deux mots à la fois? C'est ce que nous avons reconnu précédemment.
Polos, c'est exact.
Socrate, or n'avons-nous pas reconnu tout à l'heure que ce qu'il y a de plus laid, c'est l'injustice, et en général la méchanceté de l'âme?
Polos, nous l'avons reconnu en effet.
Socrate, et le plus laid n'est-il point tel parce que c'est le plus douloureux et le plus pénible, ou parce que c'est le plus dommageable, ou à cause de l'un et de l'autre?
Polos, nécessairement.
Socrate, est-il donc plus pénible d'être injuste, intempérant, lâche et ignorant, que d'être pauvre et malade?
Polos, il ne me semble pas, Socrate, d'après ce que nous avons dit.
Il faut donc, pour que la méchanceté de l'âme soit la plus laide du monde, qu'elle surpasse tout par la grandeur extraordinaire du dommage et le mal prodigieux qu'elle cause, puisque ce n'est point par la douleur, d'après ce que tu as dit.
Polos, c'est évident.
Socrate, mais ce qui l'emporte par l'excès du dommage est le plus grand mal qui existe.
Polos, oui.
Socrate, donc l'injustice, l'intempérance et en général la méchanceté de l'âme sont les plus grands maux du monde.
Polos, et à apparence.
Socrate, maintenant quel est l'art qui nous délivre de la pauvreté? N'est-ce pas l'économie?
Polos, si.
Socrate, et de la maladie, n'est-ce pas la médecine?
Polos, incontestablement.
Socrate, et de la méchanceté et de l'injustice. Si ma question ainsi posée t'embarrasse, reprenons-la de cette manière. Où et chez qui conduisons-nous ceux dont le corps est malade?
Polos, chez les médecins.
Socrate, et où conduit-on ceux qui s'abandonnent à l'injustice et à l'intempérance?
Polos, tu veux dire qu'on les conduit devant le juge?
Socrate, pour y payer leurs fautes, n'est-ce pas?
Polos, oui.
Socrate, et maintenant, n'est-ce pas en appliquant une certaine justice que l'on punit, quand on punit avec raison?
Polos, évidemment si.
Socrate, ainsi donc l'économie délivre de l'indigence, la médecine de la maladie, la justice de l'intempérance et de l'injustice.
Polos, il y a apparence.
Socrate, et laquelle de ces choses dont tu parles est la plus belle?
Polos, quelle chose?
Socrate, l'économie, la médecine, la justice.
Polos, la plus belle de beaucoup, Socrate, c'est la justice.
Socrate, c'est donc elle aussi, puisqu'elle est la plus belle, qui procure le plus de plaisir ou de profit, ou des deux à la fois.
Polos, oui.
Socrate, est-ce une chose agréable d'être entre les mains des médecins, et prend-on plaisir à se laisser traiter par eux?
Polos, je ne le crois pas, non.
Socrate, mais on y a profit, n'est-ce pas?
Polos, oui.
Socrate, car on est délivré d'un grand mal, et l'on a avantage à supporter la douleur et à recouvrer la santé.
Polos, sans doute.
Socrate, dans ces conditions, quand est-ce qu'on est dans la meilleure condition physique? Lorsqu'on est entre les mains des médecins, ou lorsqu'on n'est pas du tout malade?
Polos, c'est évident, quand on n'a aucune maladie.
Socrate, c'est qu'en effet le bonheur ne consiste pas, semble-t-il, à être délivré d'un mal, mais à n'en pas avoir du tout.
Polos, c'est vrai.
Socrate, et de deux hommes dont le corps ou l'âme sont atteints par le mal, lequel est le plus malheureux? Celui qu'on traite et qu'on délivre de son mal, ou celui qui n'est point traité et qui le garde?
Polos, il me semble que c'est celui qui n'est point traité.
Socrate, n'avons-nous pas dit que payer sa faute, c'est se délivrer du plus grand mal, la méchanceté?
Polos, nous l'avons dit en effet.
Socrate, c'est qu'en effet, la punition assagit,
et rend plus juste, et que la justice est comme la médecine de la méchanceté.
Polos, oui.
Socrate, le plus heureux par conséquent est celui qui n'a point de vice dans l'âme, puisque nous avons vu que c'était le plus grand des maux.
Polos, sans aucun doute.
Socrate, au second rang vient celui qu'on délivre du vice.
Polos, il semble.
Socrate, et celui-là, c'est l'homme qu'on avertit, qu'on réprimande et qui paye sa faute.
Polos, oui.
Socrate, l'homme qui mène la vie la plus malheureuse est donc celui qui garde son injustice, au lieu de s'en débarrasser.
Polos, c'est évident.
Socrate, or n'est-ce pas justement le cas de l'homme qui, tout en commettant les plus grands crimes et tenant la conduite la plus injuste, réussit à se mettre au-dessus des avertissements, des corrections, des punitions, comme l'a fait, dis-tu, Archélaos, ainsi que les autres tyrans, les orateurs et les potentats.
Polos,
il le semble.
Socrate, ces gens-là, excellent Polos, se sont à peu près conduits comme un homme qui, atteint des plus graves maladies, se serait arrangé pour ne point rendre compte aux médecins de ses tares physiques, et pour échapper à leur traitement, craignant comme un enfant qu'on ne lui appliquât le feu et le fer parce que cela fait mal. N'est-ce pas ainsi que tu te figures leur état?
Polos, si.
Socrate, la raison, c'est qu'ils ignoreraient, ce semble, le prix de la santé et du bon état du corps.
À en juger par les principes sur lesquels nous sommes à présent d'accord, ceux qui cherchent à éviter la punition ont bien l'air de se conduire de la même manière. Ils voient ce qu'elle a de douloureux, mais ils sont aveugles sur ce qu'elle a d'utile, et ils ne savent pas combien on n'est plus à plaindre d'habiter avec une âme malsaine, gâtée, injuste, impie, qu'avec un corps malsain. De là vient qu'ils mettent tout en œuvre pour ne point expier leurs fautes et n'être pas délivrés du plus grand des maux. Ils tâchent de se procurer des richesses, des amis, et d'être aussi habiles que possible à persuader au moyen du discours. Mais si nos principes sont justes, vois-tu ce qui résulte de notre discussion, ou veux-tu que nous en tirions les conclusions?
Polos, oui, s'il te plaît.
Socrate, n'en résulte-t-il pas que le plus grand des maux, c'est d'être injuste et de vivre dans l'injustice?
Polos, si, évidemment.
Socrate, d'autre part, n'avons-nous pas reconnu qu'on se délivrait de ce mal en payant sa faute?
Polos, c'est possible.
Socrate, et que l'impunité ne faisait que l'entretenir?
Polos, oui.
Socrate, par conséquent, pour la grandeur du mal, commettre l'injustice n'est qu'au second rang. Mais l'injustice impunie est le plus grand et le premier de tous les maux.
Polos, il semble.
Socrate, n'est-ce pas sur ce point, cher ami, que nous étions en contestation? Tu soutenais, toi, qu'Archélaos est heureux, parce que, commettant les plus grands crimes, il échappe à toute punition. Moi, au contraire, je pensais qu'Archélaos, ou tout autre qui ne paye point ses crimes, est naturellement le plus malheureux de tous les hommes, que celui qui commet une injustice est toujours plus malheureux que celui qui l'a subi, et celui qui ne paye pas sa faute plus que celui qui l'expie. N'est-ce point là ce que je disais?
Polos, si.
Socrate, n'a-t-il pas démontré que j'avais la vérité pour moi?
Polos,
il le semble. Socrate, voilà qui est entendu. Mais si cela est vrai, Polos, où est donc la grande utilité de la rhétorique? Il faut en effet, d'après les principes sur lesquels nous sommes à présent d'accord, se garder avant tout de commettre l'injustice, vu que ce serait déjà un mal suffisant. N'est-ce pas vrai?
Polos, tout à fait.
Socrate, et si l'on a commis une injustice, ou soi-même, ou toute autre personne à qui l'on s'intéresse, il faut aller de son plein gré, là où on l'expiera le plus vite possible, chez le juge, comme on irait chez le médecin, et se hâter de peur que la maladie de l'injustice, devenue chronique, ne produise dans l'âme un ulcère inguérissable. Autrement, que pouvons-nous dire, Polos, si nos prémices demeurent fermes? N'est-ce pas la seule manière d'accorder notre conclusion avec elle?
Polos,
que pourrions-nous dire d'autre, Socrate?
Socrate, donc pour nous défendre d'une accusation d'injustice, lorsque nous en avons commis une nous-mêmes, ou nos parents, ou nos amis, ou nos enfants, ou notre patrie, la rhétorique n'est pour nous d'aucun usage.
À moins qu'on admette au contraire qu'il faut s'accuser soi-même le premier, puis ses parents et ses amis,
toutes les fois qu'ils ont commis quelque injustice. Il ne faut point cacher sa faute, mais l'exposer au grand jour, afin de l'expier et de recouvrer la santé. Qu'on doit se faire violence à soi-même et aux autres, pour ne pas reculer, mais pour s'offrir les yeux fermés et avec courage, comme on s'offre au médecin, pour être amputé ou cautérisé. Qu'il faut poursuivre le bon et le beau, sans tenir compte de la douleur. Et si la faute qu'on a commise mérite des coups, allez au-devant des coups. Si elle mérite la prison, allez au-devant des chaînes. Si elle mérite une amende, la payer. L'exil, s'exiler. La mort, la subir. Être le premier à déposer contre soi-même et contre ses proches, et pratiquer la rhétorique uniquement pour se délivrer, par la manifestation de ses crimes, du plus grand des maux, l'injustice. Est-ce là, oui ou non, Paulos, ce que nous venons de dire ?
Paulos. Cela me paraît étrange, Socrate. Mais peut-être est-ce la conséquence de ce que nous avons dit précédemment.
Socrate. Ainsi donc, il faut ou bien rétracter ce que nous avons dit, ou bien admettre ses conclusions.
Paulos. Oui, la chose est ainsi.
Socrate. Prenons maintenant le cas contraire. Supposons qu'il faille faire du mal à quelqu'un, ennemi ou tout autre, pourvu qu'on ne soit pas soi-même lésé par son ennemi, car il faut bien prendre garde à cela. Si donc c'est un autre que cet ennemi a lésé, il faut faire tous ses efforts, en action et en parole, pour qu'il ne soit pas puni, et ne vienne pas devant le juge. Et s'il y vient, il faut s'arranger pour qu'il échappe, et ne soit pas puni, de sorte que s'il a volé une grande quantité d'or, il ne le rende pas, mais le garde, et que, s'il a mérité la mort par ses crimes, il y échappe, et si c'est possible qu'il ne meure jamais, mais soit immortel dans sa méchanceté, ou que du moins, il vive le plus longtemps possible dans l'état où il est. Telles sont les fins pour lesquelles la rhétorique me semble pouvoir servir, car pour celui qui ne doit commettre aucune injustice, je ne vois pas qu'elle puisse lui être d'une grande utilité, si tant est qu'elle en ait aucune, car notre argumentation précédente nous a fait voir qu'elle n'était bonne à rien. Calliclès. Dis-moi, Caïréphon, Socrate est-il sérieux quand il tient ce langage, ou badine-t-il ?
Caïréphon. Il me semble à moi, Calliclès, qu'il est souverainement sérieux, mais il n'y a rien de tel que de l'interroger lui-même.
Calliclès. Par les dieux, j'en ai bien envie. Dis-moi, Socrate, faut-il croire que tu parles sérieusement en ce moment, ou que tu badines ? Car si tu parles sérieusement, et si ce que tu dis est vrai, c'est de quoi renverser notre vie sociale, et nous faisons, ce me semble, tout le contraire de ce qu'il faudrait.
Socrate. Si les hommes, Calliclès, n'étaient pas sujets aux mêmes passions, ceux-ci d'une façon, ceux-là d'une autre, et que chacun de nous eût sa propre passion, sans rapport avec celle des autres, il ne serait pas facile de faire connaître à autrui ce qu'on éprouve soi-même. Si je dis cela, c'est que j'ai observé que nous sommes actuellement, toi et moi, dans le même cas, et que nous sommes tous deux épris de deux objets. Moi d'Alcibiade, fils de Clinias, et de la philosophie. Toi du démos athénien, et de démos, fils de Pyrilampe. Or je m'aperçois en toute occasion qu'en dépit de ton éloquence, quoi que dise l'objet de ton amour, et de quelque manière qu'il voit les choses, tu n'as pas la force de le contredire, et que tu te laisses balloter d'une idée à l'autre. Si dans l'assemblée tu émets une opinion, et que le démos athénien se déclare contre elle, tu l'abandonnes, et tu conformes ton langage à ses désirs, et tu en fais autant pour ce garçon, le fils de Pyrilampe. C'est que tu es hors d'état de résister aux volontés et aux discours de l'objet aimé. Et si quelqu'un, chaque fois que tu parles, s'étonnait des choses que tu dis pour leur complaire et les trouvait absurdes, tu pourras lui répondre, si tu voulais dire la vérité, que si l'on n'empêche pas tes amours de parler comme ils font, tu ne pourras jamais t'empêcher toi-même de parler comme tu fais. Dis-toi donc que de ma part aussi, tu dois t'attendre à la même réponse, et ne t'étonne pas des discours que je tiens, mais oblige l'objet de mon amour, la philosophie, à cesser de parler comme elle fait. C'est elle en effet, cher ami, qui dit sans cesse ce que tu m'entends dire en ce moment, et elle est beaucoup moins changeante que mes autres amours. Car le fils de Clinias parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais la philosophie tient toujours le même discours. C'est elle qui dit les choses dont tu t'étonnes, et tu as assisté toi-même à ses discours. C'est donc elle que tu as à réfuter, je le répète. Prouve-lui que commettre l'injustice et vivre dans l'impunité, après l'avoir commise, n'est pas le dernier des maux. Autrement, si tu laisses cette assertion sans la réfuter, par le chien, dieu des Égyptiens, je te jure, Calliclès, que Calliclès ne s'accordera pas avec lui-même, et qu'il vivra dans une perpétuelle dissonance. Or je pense, moi, excellent ami, que mieux vaudrait pour moi avoir une lyre mal accordée et dissonante, diriger un cœur discordant et me trouver en opposition et en contradiction avec la plupart des hommes, que d'être seul en désaccord avec moi-même et de me contredire. Calliclès, tu m'as l'air, Socrate, d'être aussi présomptueux dans tes discours qu'un véritable orateur populaire. Et tu déclames ainsi parce que Polos a eu la même défaillance qu'il accusait Gorgias d'avoir eue avec toi. Polos a dit en effet que Gorgias, lorsque tu lui as demandé, au cas où quelqu'un désireux d'apprendre la rhétorique viendrait à son école sans connaître la justice, s'il la lui enseignerait, avait répondu qu'il l'enseignerait. Par fausse honte, et pour ne pas heurter les préjugés des gens, qui s'indignerait qu'on répondît autrement. Que cet aveu avait réduit Gorgias à se contredire, et que c'est justement cela que tu cherches. Là-dessus, Polos s'est moqué de toi, et à juste titre, à mon avis. Et voilà que Polos s'est mis lui-même dans le même cas que Gorgias. Et pour ma part, je ne saurais l'approuver de t'avoir accordé qu'il est plus laid de commettre l'injustice que de la subir. C'est à la suite de cette concession que tu as pu l'empêtrer dans tes raisonnements et lui fermer la bouche, parce qu'il n'a pas osé parler suivant sa pensée. Car au fond, Socrate, c'est toi qui, tout en protestant que tu cherches la vérité, te comportes comme un vulgaire déclamateur et dirige la conversation sur ce qui est beau, non selon la nature, mais selon la loi.
Or, le plus souvent, la nature et la loi s'opposent l'une à l'autre. Si donc, par pudeur, on n'ose pas dire ce qu'on pense, on est forcé de se contredire. C'est un secret que tu as découvert, toi aussi, et tu t'en sers pour dresser des pièges dans la dispute. Si l'on parle en se référant à la loi, tu interroges en te référant à la nature. Et si l'on parle de ce qui est dans l'ordre de la nature, tu interroges sur ce qui est dans l'ordre de la loi. C'est ainsi, par exemple, qu'à propos de l'injustice commise et subie, tandis que Polos parlait de ce qu'il y a de plus laid selon la loi, tu poursuivais la discussion en te référant à la nature. Car selon la nature, tout ce qui est plus mauvais est aussi plus laid, comme de souffrir l'injustice. Tandis que selon la loi, c'est la commettre. Ce n'est même pas le fait d'un homme de subir l'injustice, c'est le fait d'un esclave, pour qui la mort est plus avantageuse que la vie, et qui, lésé et bafoué, n'est pas en état de se défendre, ni de défendre ceux auxquels il s'intéresse. Mais selon moi, les lois sont faites pour les faibles, et par le grand nombre. C'est pour eux et dans leur intérêt qu'ils les font et qu'ils distribuent les éloges ou les blâmes. Et pour effrayer les plus forts, ceux qui sont capables d'avoir l'avantage sur eux, pour les empêcher de l'obtenir, ils disent qu'il est honteux et injuste d'ambitionner plus que sa part, et que c'est en cela que consiste l'injustice, à vouloir posséder plus que les autres. Quant à eux, j'imagine qu'ils se contentent d'être sur le pied de l'égalité, avec ceux qui valent mieux qu'eux. Voilà pourquoi dans l'ordre de la loi, on déclare injuste et laide l'ambition d'avoir plus que le commun des hommes. Et c'est ce qu'on appelle injustice. Mais je vois que la nature elle-même proclame qu'il est juste que le meilleur ait plus que le pire, et le plus puissant que le plus faible. Elle nous montre par mille exemples qu'il en est ainsi, et que non seulement dans le monde animal, mais encore dans le genre humain, dans les cités et les races entières, on a jugé que la justice voulait que le plus fort commandât au moins fort et fût mieux partagé que lui. De quel droit, en effet, Xerxès porta-t-il la guerre en Grèce et son père en Scythie, sans parler d'une infinité d'autres exemples du même genre qu'on pourrait citer. Mais ces gens-là, je pense, agissent selon la nature du droit et par Zeus, selon la loi de la nature, mais non peut-être selon la loi établie par les hommes. Nous formons les meilleurs et les plus forts d'entre nous, que nous prenons en bas âge, comme des lionceaux, pour les asservir par des enchantements et des prestiges, en leur disant qu'il faut respecter l'égalité, et que c'est en cela que consiste le beau et le juste. Mais qu'il paraisse un homme d'une nature assez forte pour secouer et briser ses entraves et s'en échapper,
Je suis sûr que, foulant à pied nos écrits, nos prestiges, nos incantations et toutes les lois contraires à la nature, il se révoltera, et que nous verrons apparaître notre maître dans cet homme qui était notre esclave. Et alors, le droit de la nature brillera dans tout son éclat. Il me semble que Pindare met en lumière ce que j'avance dans l'ode où il dit « La loi règne du monde des mortels et des immortels. » Cette loi, ajoute-t-il, justifiant les actes les plus violents, mène tout de sa main toute puissante. J'en juge par les actions d'Héraclès, puisque sans les avoir achetées. Voici à peu près son idée, car je ne sais pas l'ode par cœur. Mais le sens est que, sans avoir acheté, ni reçu en présent les bœufs de Guérion, Héraclès les emmena, estimant que le droit naturel était pour lui, et que les bœufs et tous les biens des faibles et des petits appartiennent au meilleur et au plus fort. Voilà la vérité, tu le reconnaîtras, si laissant de côté la philosophie, tu passes à des occupations plus importantes. La philosophie, Socrate, est certainement pleine de charme, lorsqu'on s'y adonne modérément dans la jeunesse. Mais si l'on s'y attarde plus qu'il ne faut, c'est la ruine qui vous attend. Car si bien doué qu'on soit, quand on continue à philosopher jusqu'à un âge avancé, on reste nécessairement neuf dans tout ce qu'il faut savoir, si l'on veut être un honnête homme et se faire une réputation. Et en effet, on n'entend rien aux lois de l'État et au langage qu'il faut tenir pour traiter avec les hommes dans les rapports privés et publics. On n'a aucune expérience des plaisirs et des passions. En un mot, des caractères des hommes. Aussi, lorsqu'on se mêle de quelque affaire privée ou publique, on prête à rire, de même que les hommes politiques, j'imagine, lorsqu'ils se mêlent à vos entretiens et à vos disputes, se couvrent eux aussi de ridicule. Il arrive alors, comme dit Euripide, que chacun brille et se porte à l'art où il se surpasse lui-même, et il y consacre la meilleure partie du jour. Mais celui où l'on est médiocre, on l'évite. Et on le critique, tandis qu'on vante l'autre, par amour-propre, croyant par là se louer soi-même. Mais à mon avis, le mieux est de prendre connaissance des deux. Il est beau d'étudier la philosophie, dans la mesure où elle sert à l'instruction, et il n'y a pas de honte pour un jeune garçon à philosopher. Mais lorsqu'on continue à philosopher dans un âge avancé, la chose devient ridicule, et pour ma part, j'éprouve à l'égard de ceux qui cultivent la philosophie un sentiment très voisin de celui que m'inspirent les gens qui balbutient et font les enfants. Quand je vois un petit enfant, à qui cela convient encore, balbutier et jouer, cela m'amuse et me paraît charmant, digne d'un homme libre, essayant à cet âge. Tandis que, si j'entends un bambin causer avec netteté, cela me paraît choquant, me blesse l'oreille, et j'y vois quelque chose de servile. Mais si c'est un homme fait qu'on entend ainsi balbutier, et qu'on voit jouer, cela semble ridicule, indigne d'un homme, et mérite le fouet. C'est juste le même sentiment que j'éprouve à l'égard de ceux qui s'adonnent à la philosophie. J'aime la philosophie chez un adolescent, cela me paraît séant, et dénote à mes yeux un homme libre. Celui qui la néglige me paraît au contraire avoir une âme basse, qui ne se croira jamais capable d'une action belle, et généreuse. Mais quand je vois un homme déjà vieux, qui philosophe encore et ne renonce pas à cette étude, je tiens qu'il mérite le fouet. Comme je le disais tout à l'heure, un tel homme, si parfaitement doué qu'il soit, se condamne à n'être plus un homme, en fuyant le cœur de la cité et les assemblées, où, comme dit le poète, les hommes se distinguent et passant toute sa vie dans la retraite à chuchoter dans un coin avec trois ou quatre jeunes garçons, sans que jamais il sorte de sa bouche aucun discours libre, grand et généreux. Pour moi, Socrate, je suis fort bien disposé pour toi, et il me semble que ta présence éveille en moi les mêmes sentiments que Zétos éprouvait à l'égard d'Amphion, chez Euripide, que je viens justement de citer. J'ai envie de te donner des conseils pareils à ceux que Zétos adressait à son frère, et de te dire que tu négliges ce qui devrait t'occuper, que tu déformes ton naturel si généreux par un déguisement puéril, que dans les délibérations relatives à la justice, tu ne saurais apporter une juste parole, ni saisir le vraisemblable et le persuasif, ni donner un conseil généreux. Et cependant, mon cher Socrate, ne te fâche pas contre moi. C'est l'amitié que j'ai pour toi qui me fait parler. Ne te paraît-il pas honteux d'être dans l'état où je te vois? Toi et tous ceux qui poussent toujours plus loin leur étude de la philosophie.
En ce moment même, si l'on t'arrêtait, toi ou tout autre de tes pareils, et si l'on te traînait en prison, en t'accusant d'un crime que tu n'aurais pas commis, tu sais bien que tu serais fort embarrassé de ta personne, que tu perdrais la tête et resterais bouche bée, sans savoir que dire, et que lorsque tu serais monté au tribunal, quelque vil et méprisable que fût ton accusateur, tu serais mis à mort, s'il lui plaisait de réclamer cette peine. Or qu'y a-t-il de sage, Socrate, dans un art qui, prenant un homme bien doué, le rend pire, impuissant à se défendre et à sauver des plus grands dangers, soit lui-même, soit tout autre, qui l'expose à être dépouillé de tous ses biens par ses ennemis et à vivre absolument sans honneur dans sa patrie. Un tel homme, si l'on peut user de cette expression un peu rude, on a le droit de le souffleter impunément. Crois-moi donc, mon bon ami, renonce à tes arguties, cultive la belle science des affaires, exerce-toi à ce qui te donnera la réputation d'un habile homme. Laisse à d'autres ces gentillesses, de quelque nom, radotage ou niaiserie qu'il faille les appeler, qui te réduiront à habiter une maison vide. Prends pour modèle non pas des gens qui ergotent sur ces bagatelles, mais ceux qui ont du bien, de la réputation et mille autres avantages. Socrate. Si mon âme était d'or, Calliclès, ne crois-tu pas que je serais bien aise de trouver une de ces pierres avec lesquelles on éprouve l'or, la meilleure pour en approcher mon âme, de façon que, si elle me confirmait que mon âme a été bien soignée, je fusse assurée que je suis en bon état et que je n'ai plus besoin d'aucune épreuve. Calliclès. Où tend ta question, Socrate? Socrate, je vais te le dire. C'est que je pense avoir fait, en te rencontrant, cette heureuse trouvaille. Calliclès. Comment cela? Socrate. J'ai la certitude que, si tu tombes d'accord avec moi sur les opinions de mon âme, elles seront de ce fait absolument vraies. Je remarque en effet que, pour examiner comme il faut si une âme vit bien ou mal, il faut avoir trois qualités, que tu réunis toutes les trois. La science, la bienveillance et la franchise. Je rencontre souvent des gens qui ne sont pas capables de m'éprouver, parce qu'ils ne sont pas savants comme toi. D'autres sont savants, mais ne veulent pas me dire la vérité, parce qu'ils ne s'intéressent pas à moi, comme tu le fais. Quant à ces deux étrangers, Gorgias et Polos, ils sont savants et bien disposés pour moi tous les deux. Mais leur franchise n'est pas assez hardie, et ils sont par trop timides. Comment en douter, quand ils portent la timidité au point qu'ils se résignent à se contredire l'un l'autre, par fausse honte, en présence de nombreux assistants, et cela sur les objets les plus importants. Toi, au contraire, tu as toutes ces qualités qui manquent aux autres. Tu as reçu une solide instruction, comme beaucoup d'Athéniens pourraient l'attester, et tu as de la bienveillance pour moi. Qu'est-ce qui me le prouve? Je vais te le dire. Je sais, Calliclès, que vous vous êtes associés à quatre pour cultiver la philosophie. Toi, Tisandre d'Aphidna, Andron, fils d'Androtion, et Nausicide de Collarge. Et je vous ai entendu un jour délibérer sur le point jusqu'où il faut pousser cette étude. Je sais que l'opinion qui prévalut parmi vous fut qu'il ne fallait pas s'y adonner jusqu'à en épuiser la matière, et que vous vous êtes conseillés les uns aux autres de prendre garde à ne pas vous gâter à votre insu, en devenant plus savant qu'il ne convient. Aussi, quand je t'entends me donner les mêmes conseils qu'à tes plus intimes camarades, je tiens cela pour une preuve décisive, que tu es vraiment bien disposé pour moi. Que tu sois avec cela capable de parler franchement et sans fausse honte, tu l'affirmes toi-même, et le discours que tu as tenu tout à l'heure confirme ton affirmation. Voilà donc un point visiblement éclairci à présent. Ce que tu m'accorderas dans la discussion sera dès lors considéré comme suffisamment éprouvé de part et d'autre, et il ne sera plus nécessaire de le soumettre à un nouvel examen. Car si tu me l'accordes, ce ne sera pas assurément par défaut de science ou par excès de timidité, et tu ne me feras pas non plus de concession pour me tromper, car tu es mon ami, c'est toi-même qui l'affirme. Ainsi donc, toute entente entre toi et moi sera par le fait la preuve que nous aurons atteint l'exacte vérité. Hors de tous les sujets de discussion, Calliclès, le plus beau est celui que tu m'as reproché, qui est de savoir ce que l'homme doit être, à quoi il doit s'appliquer et jusqu'à quel point, soit dans la vieillesse, soit dans la jeunesse. Pour moi, si je fais quelque faute de conduite, sois sûr que ce n'est pas volontairement, mais par ignorance. Ne cesse donc pas de me donner des avis, comme tu as si bien commencé. Indique-moi nettement quelle est cette profession que je dois embrasser et de quelle manière je peux y réussir. et si tu trouves qu'après t'avoir donné mon acquiescement aujourd'hui, je ne fais pas dans la suite ce que je t'aurais concédé, tiens-moi pour un lâche, et refuse-moi alors tout conseil, comme à un homme qui n'est bon à rien. Mais reprenons les choses au commencement. Qu'entendez-vous, Pindare et toi, par la justice selon la nature? Est-ce le droit qu'aurait le plus puissant de prendre par force les biens du faible, ou le meilleur de commander au moins bon, ou celui qui vaut plus d'avoir plus que celui qui vaut moins? Te fais-tu de la justice une autre idée, ou ma mémoire est-elle fidèle? Calliclès. Oui, c'est cela que j'ai dit alors et que je dis encore. Socrate. Mais est-ce le même homme que tu appelles meilleur et plus puissant? Je n'ai pas su comprendre alors ce que tu voulais dire. Est-ce les plus forts que tu appelles meilleurs, et faut-il que les plus faibles obéissent aux plus forts? Comme tu l'as laissé entendre, je crois, en disant que les grands états attaquent les petits en vertu du droit naturel, parce qu'ils sont plus puissants et plus forts, ce qui suppose que plus puissant, plus fort et meilleur, c'est la même chose. Ou bien se peut-il qu'on soit meilleur tout en étant plus petit et plus faible, et qu'on soit plus puissant tout en étant plus mauvais? Ou bien la définition du meilleur et du plus puissant est-elle la même? C'est cela même que je te prie de définir en termes précis. Y a-t-il identité ou différence entre plus puissant, meilleur et plus fort? Calliclès. Eh bien, je te déclare nettement que c'est la même chose. Socrate. Dans l'ordre de la nature, le grand nombre n'est-il pas plus puissant que l'homme isolé, puisqu'il fait les lois contre l'individu, comme tu le disais tout à l'heure? Calliclès. On en saurait douter. Socrate. Alors les ordonnances du grand nombre sont celles des plus puissants? Calliclès. Assurément. Socrate. Donc aussi des meilleurs, puisque les plus puissants sont les meilleurs d'après ton aveu. Calliclès. Oui. Socrate. Donc leurs ordonnances sont belles selon la nature, étant celles des plus puissants? Calliclès. Oui. Socrate. Or le plus grand nombre ne pense-t-il pas, comme tu le disais aussi tout à l'heure, que la justice consiste dans l'égalité, et qu'il est plus laid de commettre l'injustice que de la subir? Est-ce vrai, oui ou non? Et prends garde d'être pris ici, toi aussi, en flagrant délit de mauvaise honte. Le grand nombre pense-t-il, oui ou non, qu'il est juste d'avoir autant, mais pas plus que les autres, et qu'il est plus laid de commettre l'injustice que de la subir? Ne refuse pas de me répondre là-dessus, Calliclès, afin que, si tu es de mon avis, je m'affermisse dès lors dans mon sentiment par l'aveu de quelqu'un qui sait discerner le vrai du faux. Calliclès. Eh bien oui, c'est là ce que pense le grand nombre. Socrate. Ce n'est donc pas seulement en vertu de la loi qu'il est plus laid de commettre l'injustice que de la subir, et que la justice est dans l'égalité. C'est aussi selon la nature, de sorte qu'il se pourrait que tu n'aies pas dit la vérité précédemment, et que tu m'aies accusé à tort quand tu as dit que la loi et la nature sont en contradiction, et que, sachant cela, j'étais de mauvaise foi dans les discussions, renvoyant à la loi ceux qui parlaient suivant la nature, et à la nature ceux qui parlaient suivant la loi. Calliclès. Cet homme-là ne cessera jamais de bagnauder. Dis-moi, Socrate, n'as-tu pas honte, à ton âge, de faire la chasse aux mots, et si l'on fait un lapsus de langage, de considérer cela comme une aubaine? T'imagines-tu que par les plus puissants, j'entende autre chose que les meilleurs? Ne t'ai-je pas déjà dit que pour moi, plus puissant et meilleur, c'est la même chose? Supposes-tu, parce qu'un ramassis d'esclaves et de gens de toute provenance, sans autre mérite peut-être que leur force physique, se seront assemblés et auront prononcé telle ou telle parole, que je prenne ces paroles pour des lois? Socrate. Soit, très savant Calliclès, c'est ainsi que tu l'entends? Calliclès. Exactement. Socrate. Eh bien, mon excellent ami, je me doutais bien moi-même depuis longtemps que tu prenais le mot plus puissant dans ce sens-là. Et si je répète ma question, c'est que je suis impatient de savoir nettement ce que tu penses, car tu ne crois pas apparemment que deux hommes soient meilleurs qu'un seul, ni tes esclaves meilleurs que toi parce qu'ils sont plus forts que toi. Dis-moi donc, en reprenant au commencement, ce que tu entends par les meilleurs, puisque ce ne sont pas les plus forts. Seulement, merveilleux Calliclès, fais-moi la leçon plus doucement, pour que je ne m'enfuis pas de ton école. Calliclès. Tu te moques, Socrate. Socrate. Non, Calliclès, j'en jure par Zétos, dont tu t'es servi amplement tout à l'heure pour me railler. Allons, dis-moi quels sont ceux que tu appelles les meilleurs. Calliclès. Ceux qui valent mieux. Socrate. Ne vois-tu donc pas que, toi aussi, tu te bornes à des mots, et que tu n'expliques rien? Veux-tu me dire si par les meilleurs et les plus puissants, tu entends les plus sages, ou d'autres ?
Calliclès.
Oui, par Zeus, ce sont ceux-là que j'entends, sans aucun doute.
Socrate. Il arrive donc souvent, d'après toi,
qu'un seul homme sage soit plus puissant que des milliers d'hommes déraisonnables. C'est à lui qu'il appartient de commander, aux autres d'obéir, et celui qui commande doit avoir plus que ceux qui sont commandés. Voilà, ce me semble, ce que tu veux dire, et je ne fais pas la chasse à tel ou tel mot, s'il est vrai qu'un seul soit plus puissant que des milliers.
Calliclès.
Oui, c'est cela que je veux dire. Pour moi, le droit selon la nature, c'est que le meilleur et le plus sage commandent aux médiocres, et qu'il ait une plus grosse part.
Socrate.
Arrête un peu. Que peux-tu bien dire encore à ceci ? Suppose que nous soyons comme à présent beaucoup d'hommes assemblés au même endroit, et que nous disposions en commun d'une abondante provision de nourriture et de boissons. Que notre assemblée soit composée de toutes sortes de gens, les uns forts, les autres faibles, et que l'un d'entre nous, en qualité de médecin, s'entende mieux que les autres en ces matières, tout en étant, comme il est vraisemblable, plus fort que les uns, plus faible que les autres. N'est-il pas vrai que ce médecin, étant plus savant que nous, sera meilleur et plus puissant dans cette circonstance ?
Calliclès.
Assurément. Socrate. Cela étant, devra-t-il, parce qu'il est meilleur, prendre de ses vivres une plus large part que nous ? Ou bien, par le fait qu'il commande, n'est-ce pas à lui de faire la répartition de toute la provision ? Et pour ce qui est de la consommation et de l'usage de ses vivres, pour l'entretien de sa propre personne, ne doit-il pas s'abstenir de prendre plus que les autres, sous peine d'être incommodé, tandis que certains auront une plus large part, les autres une moindre que lui ? Et s'il est par hasard le plus faible de tous, ne doit-il pas avoir, bien qu'il soit le meilleur, la plus petite part de toutes ? N'en est-il pas ainsi, mon bon ami ?
Calliclès. Tu me parles de vivres, de boissons, de médecins et d'autres sottises. Ce n'est pas de cela que je te parle, moi.
Socrate. Quoi qu'il en soit, n'est-ce pas le plus sage que tu appelles le meilleur, oui ou non ?
Calliclès.
Oui. Socrate. Et ne dis-tu pas que le meilleur doit avoir plus ?
Calliclès. Oui, mais pas en fait de vivres et de boissons.
Socrate. J'entends.
Mais en fait de vêtements, peut-être ?
Le plus habile à tisser doit-il avoir le plus ample manteau, et promener par la ville les plus nombreux et les plus beaux costumes ?
Calliclès. Que viens-tu nous chanter avec tes costumes ?
Socrate. Et pour les chaussures, il est clair que la plus grosse part doit revenir à celui qui est le plus entendu et le meilleur en cette matière. Peut-être le cordonnier doit-il circuler avec de plus grandes et de plus nombreuses chaussures que les autres ?
Calliclès. Qu'ai-je à faire de ces chaussures ?
Tu radotes, à dire d'expert.
Socrate. Eh bien, si ce n'est pas cela que tu as en vue, c'est peut-être le cas d'un laboureur qui s'entend en perfection au travail de la terre. Peut-être doit-il avoir plus de semences que les autres, et en employer autant qu'il est possible pour ensemencer ses terres.
Calliclès. Comme tu rebats toujours les mêmes choses, Socrate.
Socrate. Non seulement les mêmes choses, Calliclès, mais encore sur les mêmes sujets.
Calliclès. Par les dieux, tu ne cesses vraiment jamais de parler de cordonnier, de foulon, de cuisinier, de médecin, comme s'il était question entre nous de ces gens-là.
Socrate. Ne veux-tu pas me dire enfin en quel ordre de choses le plus puissant et le plus sage aura droit à une plus forte part que les autres ? Refuses-tu à la fois de souffrir mes suggestions et de parler toi-même ?
Calliclès. Mais je parle, et depuis longtemps. Tout d'abord, par les plus puissants, je n'entends pas les cordonniers, ni les cuisiniers, mais les hommes qui s'entendent à diriger comme il faut les affaires de l'État, et qui sont non seulement intelligents, mais encore courageux, parce qu'ils sont capables d'exécuter ce qu'ils ont conçu, et ne se découragent pas par faiblesse d'âme.
Socrate. Te rends-tu compte, excellent Calliclès, combien sont différents les reproches que tu me fais et ceux que j'ai à t'adresser ? Tu prétends, toi, que je dis toujours les mêmes choses, et tu m'en fais un crime. Mais je te reproche au contraire de ne jamais dire les mêmes choses sur les mêmes sujets, mais d'appeler meilleurs et plus puissants, d'abord les plus forts, puis les plus sages, et d'en apporter à ce moment encore une autre définition, car ce sont des gens courageux que tu nous donnes pour les plus puissants et les meilleurs. Allons, mon bon, dis-moi, une fois pour toutes, quels peuvent bien être, et relativement à quoi, ceux que tu qualifies de meilleurs et de plus puissants ?
Calliclès. Mais je l'ai déjà dit ! Ce sont ceux qui s'entendent aux affaires publiques et qui sont courageux. C'est à cela qu'il appartient de gouverner les États, et la justice veut qu'ils aient plus que les autres, les gouvernants devant avoir plus que les gouvernés.
Socrate, mais quoi? Par rapport à eux-mêmes, sont-ils gouvernants ou gouvernés?
Calliclès, que veux-tu dire?
Socrate, je veux dire que chacun se commande lui-même. Ou bien est-ce inutile de se commander soi-même, et suffit-il de commander les autres?
Calliclès, qu'entends-tu par se commander soi-même?
Socrate, rien de compliqué. J'entends comme le vulgaire, être tempérant et maître de soi, et commander en soi au plaisir et aux passions.
Calliclès, que tu es plaisant.
Ce sont les imbéciles que tu appelles tempérants.
Socrate, comment cela? Qui ne voit que ce n'est pas d'eux que je parle?
Calliclès, c'est d'eux très certainement. Comment, en effet, un homme pourrait-il être heureux s'il est esclave de quelqu'un? Mais voici ce qui est beau et juste suivant la nature, je te le dis en toute franchise. C'est que pour bien vivre, il faut laisser prendre à ses passions tout l'accroissement possible, au lieu de les réprimer. Et quand elles ont atteint toute leur force, être capable de leur donner satisfaction, par son courage et son intelligence, et de remplir tous ses désirs à mesure qu'ils éclosent. Mais cela n'est pas, je suppose, à la portée du vulgaire. De là vient qu'il décrit les gens qui en sont capables, parce qu'il a honte de lui-même et veut cacher sa propre impuissance. Il dit que l'intempérance est une chose laide, essayant par là d'asservir ceux qui sont mieux doués par la nature. Et ne pouvant lui-même fournir à ses passions de quoi les contenter, il fait l'éloge de la tempérance et de la justice à cause de sa propre lâcheté. Car pour ceux qui ont eu la chance de naître fils de roi, et que la nature a fait capable de conquérir un commandement, une tyrannie, une souveraineté, peut-il y avoir véritablement quelque chose de plus honteux et de plus funeste que la tempérance? Tandis qu'il leur est loisible de jouir des biens de la vie sans que personne les en empêche. Ils s'imposeraient eux-mêmes pour mettre la loi, les propos, les censures de la foule? Et comment ne seraient-ils pas malheureux, du fait de cette prétendue beauté de la justice et de la tempérance, puisqu'ils ne pourraient rien donner de plus à leurs amis qu'à leurs ennemis, et cela quand ils sont les maîtres de leur propre cité? La vérité que tu prétends chercher, la voici. Le luxe, l'incontinence et la liberté, quand ils sont soutenus par la force, constituent la vertu et le bonheur. Le reste, toutes ces belles idées, ces conventions contraires à la nature, ne sont que niaiseries et néant.
Socrate, la franchise de ton exposé dénote une belle crânerie. Tu dis nettement, toi, ce que les autres pensent, mais ne veulent pas dire. Je te prie donc de ne rien relâcher de ton intransigeance, afin que nous puissions nous faire une idée vraiment claire
de la façon dont il faut vivre.
Et dis-moi, tu soutiens qu'il ne faut point gourmander ses désirs, si l'on veut être tel qu'on doit être, mais les laisser grandir autant que possible, et leur ménager par tous les moyens la satisfaction qu'ils demandent, et que c'est en cela que consiste la vertu.
Calliclès, je le soutiens en effet.
Socrate, on a donc tort de dire que ceux qui n'ont aucun besoin sont heureux.
Calliclès, oui, car à ce compte, les pierres et les morts seraient heureux.
Socrate, cependant, même à la manière dont tu la dépeins, la vie est une chose bien étrange. En fait, je me demande si Euripide n'a pas dit la vérité dans le passage que voici. Qui sait si vivre n'est pas mourir, et si mourir n'est pas vivre? Et il est possible que réellement nous soyons morts, comme je l'ai entendu dire à un savant homme, qui prétendait que notre vie actuelle est une mort, que notre corps est un tombeau, et que cette partie de l'âme où résident les passions est de nature à changer de sentiment et à passer d'une extrémité à l'autre. Cette même partie de l'âme, un spirituel auteur de mythes, un sicilien, je crois, ou un italien, jouant sur les mots, l'a appelé tonneau, à cause de sa docilité et de sa crédulité. Il a appelé de même les insensés non initiés à cette partie de leur âme où sont les passions, partie déréglée, incapable de rien garder. Il l'a assimilé à un tonneau percé, à cause de sa nature insatiable. Au rebours de toi, cet homme nous montre que, parmi les habitants de l'Hadès, il désigne ainsi l'invisible, les plus malheureux sont ces non-initiés, et qu'ils portent de l'eau dans des tonneaux percés avec un crible troué d'eux-mêmes. Par ce crible, il entend l'âme, à ce que me disait celui qui me rapportait ces choses, et il assimilait à un crible l'âme des insensés, parce qu'elle est percée de trous, et parce qu'infidèle et oublieuse, elle laisse tout écouler. Cette allégorie a quelque chose d'assez bizarre, mais elle illustre bien ce que je veux te faire comprendre pour te persuader, si j'en suis capable, de changer d'idée et de préférer à une existence inassouvie et sans frein, une vie réglée, contente et satisfaite de ce que chaque jour lui apporte. Eh bien, ai-je ébranlé tes convictions? Et crois-tu maintenant que les gens réglés sont plus heureux que les incontinents?
ou bien aurais-je beau te faire sans autre allégorie du même genre, sans que tu changes de vue pour cela ?
Calliclès. C'est cette seconde solution qui est la vraie, Socrate.
Socrate. Eh bien, laisse-moi te proposer une autre image, sortie de la même école que la précédente. Considère si tu ne pourrais pas assimiler chacune de ces deux vies, la tempérante et l'incontinente, au cas de deux hommes, dont chacun posséderait de nombreux tonneaux. L'un, des tonneaux en bon état, et rempli, celui-ci de vin, celui-là de miel, un troisième de lait, et beaucoup d'autres remplis d'autres liqueurs, toutes rares et coûteuses, et acquises au prix de mille peines et de difficultés. Mais une fois ces tonneaux remplis, notre homme n'y verserait plus rien, ne s'en inquiéterait plus, et serait tranquille à cet égard. L'autre aurait, comme le premier, des liqueurs qu'il pourrait se procurer, quoique avec peine. Mais n'ayant que des tonneaux percés et fêlés, il serait forcé de les remplir jour et nuit, sans relâche, sous peine des plus grands ennuis. Si tu admets que les deux vies sont pareilles, au cas de ces deux hommes, est-ce que tu soutiendras que la vie de l'homme déréglé est plus heureuse que celle de l'homme réglé ? Mon allégorie t'amène-t-elle à reconnaître que la vie réglée vaut mieux que la vie déréglée ? Ou n'es-tu pas convaincu ?
Calliclès, je ne le suis pas. L'homme au tonneau plein n'a plus aucun plaisir, et c'est cela que j'appelais tout à l'heure vivre à la façon d'une pierre, puisque quand il les a remplis, il n'a plus ni plaisir ni peine. Mais ce qui fait l'agrément de la vie, c'est d'y verser le plus qu'on peut.
Socrate, mais si l'on y verse beaucoup, n'est-il pas nécessaire qu'il s'en écoule beaucoup aussi, et qu'il y ait de larges trous pour les écoulements ?
Calliclès, bien sûr. Socrate, alors c'est la vie d'un pluvier que tu vantes, non celle d'un mort ni d'une pierre.
Mais dis-moi, ce que tu veux dire, c'est qu'il faut avoir faim, et quand on a faim, manger.
Calliclès,
oui.
Socrate, et avoir soif, et quand on a soif, se désaltérer.
Calliclès, oui, et qu'il faut avoir tous les autres désirs, pouvoir les satisfaire et y trouver du plaisir pour vivre heureux.
Socrate, fort bien, excellent Calliclès. Continue comme tu as commencé, et garde-toi de toute fausse honte. De mon côté, je ne dois pas non plus, ce me semble, en montrer. Et d'abord, dis-moi si c'est vivre heureux, quand on a la gale et envie de se gratter à son aise et de passer sa vie à se gratter.
Calliclès, tu es absurde, Socrate. On te prendrait pour un véritable orateur populaire.
Socrate, c'est ainsi que j'ai déconcerté et intimidé Polos et Gorgias.
Mais toi, il n'y a pas de danger que tu te déconcertes et sois intimidé, car tu es un brave. Réponds seulement.
Calliclès, je réponds donc qu'on peut, en se grattant, vivre agréablement.